Bonjour et bienvenue dans Indie & Co, le podcast d'Indie Collective. Donc aujourd'hui, on a avec nous un invité très spécial puisque c'est la semaine du Stunfest, donc on en profite aussi pour faire venir des gens. Et on a avec nous Adrien Larouzet. Donc bonjour Adrien.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est vrai que c'est bientôt l'heure. Tu me coupes si tu as besoin, tu es responsable éditorial des jeux chez Arte.
On pourrait le dire comme ça, la version longue, exhaustive et précise, c'est que je suis responsable du pilotage des projets numériques et donc des coproductions et des éditions de jeux vidéo et des expériences en réalité virtuelle.
Responsable éditorial, ça marche très bien.
Responsable éditorial, ça serait me donner un peu plus de pouvoir que ce que j'en ai vraiment,
ouais.
Parce que la responsabilité éditoriale me dépasse un petit peu. Mais en tout cas, effectivement, on peut dire, si je pouvais écrire ça sur ma carte, ça pourrait être Monsieur Jeux Vidéo.
Ok.
De Arte.
Monsieur Jeux Vidéo de Arte. Moi, je mettrais ça en
voilà, ça marche.
Très bien. Du coup, tu fais aussi du son. On va en parler aussi.
C'est vrai. Ouais.
Je vois ça. Et puis, des petites activités sur Twitter très intéressantes dont on va parler aussi.
Ok.
Avec moi, donc je suis Alexis. Membre d'Indie Collective, et avec moi j'ai Florent pour la première fois qui fait partie aussi d'Indie Collective.
Donc, merci. Merci à toi Adrien.
Donc je te propose de commencer avec une petite question toute simple. Est-ce qu'il y a une actualité jeu vidéo qui t'a marqué récemment?
Ah, une actualité du
ouais,
jeu vidéo
ouais.
En général?
Quelque chose que tu as vu passer?
Oh la vache, il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais pas, on pourrait parler. Je suis assez bluffé. C'est pas du tout de l'actu. C'est pas de l'actu chaude. Mais je suis assez bluffé par l'arrivée des expériences mobiles dans le catalogue de Netflix et dans l'appli Netflix. C'est assez déroutant. C'est assez marquant pour quelqu'un de l'industrie comme moi qui regarde l'évolution des jeux, des plateformes de distribution, des méthodologies de consommation, et de voir d'aussi bons jeux arriver day one dans une application type Netflix que tout le monde utilise et les retrouver gratuitement, bah, industriellement, c'est assez marquant.
Sachant qu'en plus, ils sont pas forcément exclus, ils sont même en day one aussi sur Steam, par exemple, en même temps, mais cette fois-ci à un certain prix. Donc en effet, on a réellement le double mode de consommation en parallèle. On n'est pas sur une exclusivité de Netflix. On est réellement en mode Netflix qui apporte ça en plus dans son catalogue.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'est ça que c'est intéressant, c'est qu'on se retrouve à avoir en effet des gens qui ne sont pas forcément gros consommateurs sur mobile, tablette, qui rentrent aussi via ça parce que c'est pas parce qu'ils sont gratuits que c'est pas des jeux de qualité, et c'en est pour certains. Enfin, en tout cas, dans ce que je sais que typiquement dernièrement, il y a Terranil,
Terranil,
par exemple, dans les derniers.
Ouais. Ou Immortality. Voilà, des jeux qui sont clairement ont une vraie cred de jeux indé,
oui,
et de production value, et voilà. Et c'est pas les jeux de basket qu'on a trouvé lors de la première semaine qui étaient un peu claqués.
Ou les jeux de Stranger Things, jeux
exactement.
De promo Netflix qui sont normales d'être dans le catalogue. Là, on est réellement en effet sur encore autre chose.
Non, sur de la vraie distribution de jeux qui sont des portages mobiles exclusifs pour le coup, mais qui sortent dès le premier jour. Enfin. Bon, voilà, ça raconte quelque chose de ce qui est en train de se passer culturellement.
Moi, je pense notamment, alors c'est peut-être passé complètement inaperçu auprès d'un certain public, mais je pense à la suite de, Vaillant Soldat, ou je sais
ouais.
plus,
enfin... Soldat Inconnu. Ouais.
Soldat Inconnu, voilà, c'est ça que je cherchais le titre. Et d'Ubisoft, qui du coup est pareil, il me semble que c'est complètement exclusif à Netflix.
Complètement. Donc si tu as un abonnement Netflix, tu peux retrouver le jeu. Alors le parcours utilisateur, il est assez rigolo parce qu'en fait, ça t'emmène vers le store de choix de ta plateforme, donc en l'occurrence l'Apple Store ou le Google Play Store. Mais comme tu as un abonnement Netflix, ça te permet de télécharger le truc gratuitement. Ouais, c'est assez étonnant, et c'est une nouvelle façon d'accéder à des jeux qui, en l'occurrence, sont de qualité parce que tu es client de quelque chose d'autre. Quand tu es un éditeur de jeux vidéo indépendant, ça chatouille un peu. Enfin, ça peut nous questionner sur la façon dont on distribue nos jeux, et ça peut expliquer aussi certains comportements de consommateurs, de joueurs de demain.
Et ce qui, moi, ce qui me fait un peu peur aussi dans ce genre de choses, pour moi, c'est un peu la même chose aussi avec typiquement Epic, pareil, avec le côté voilà, offrir des jeux gratuitement toutes les semaines, etc. C'est, est-ce qu'in fine, pour les développeurs, les créateurs, ça va dans le bon sens ? Est-ce qu'en effet, in fine, c'est eux qui vont être gagnants ? Ou en effet, c'est que plus pour le consommateur et pour Netflix ? C'est là toujours pareil, en effet, dans ce genre de choses, c'est intéressant. Et la question, c'est comment ça va évoluer et est-ce que ça va juste donner un nouveau choix aux créateurs ? Et si c'est ça, très bien. Et que ça ne soit pas quelque chose de OK, c'est le moyen d'avoir un public pour son jeu, mais à une valeur moindre de la qualité du travail. C'est toujours pareil dans ce genre de cas.
Ouais, mais... ouais. Bah, clairement, aujourd'hui, soit tu es là-dedans et donc tu es découvert par tout un tas de gens qui. N'était peut-être pas là pour ton jeu vidéo, mais qui se retrouve à pouvoir y accéder gratuitement et qui y joue et qui découvre. Et donc, bon, si on pense en pure découvrabilité, c'est super intéressant. Est-ce que sur le long terme, ça participe pas... Ah la vache, je vais dire des grandes phrases directes, on a commencé il y a 3 minutes. Est-ce que ça participe pas à la dévaluation de la perception, de la valeur des biens culturels ? Tu vois, genre, voilà, on se pose la question de, bon, bah, du coup, en parallèle, un jeu qui sort sur Steam, il est à 20€, bon, bah, c'est quand même deux fois un abonnement Netflix qui te permet d'avoir accès à plein de jeux. Donc, on l'avait déjà, ce sentiment avec le Game Pass, ouais. Et ça challenge les développeurs, ça challenge les éditeurs. Ça veut dire qu'on est là ou on n'est pas là, quoi. Et bon, voilà, c'est... J'aurais pas de grande conclusion là-dessus, mais en tout cas, j'ai téléchargé quelques jeux via Netflix là très récemment. Et je suis assez bluffé quand même de la qualité du catalogue qu'ils sont en train de proposer, sans vouloir leur faire de la pub parce que c'est pas le sujet, mais juste se dire que le paysage change fort.
Très bien. Bah, du coup, je te propose de passer à la suite. Comment tu as découvert le jeu vidéo et qu'est-ce qui t'a amené à être. Monsieur jeu vidéo Arte.
Ah. Alors, c'est deux questions très différentes, mais comment moi j'ai découvert le jeu vidéo je veux dire, comme n'importe qui de ma génération, voilà. Très basiquement, je vais pas vous raconter toutes les consoles que j'ai eues et tous les jeux auxquels j'ai joué étant gamin, mais consommation de jeunes joueurs assez classiques. Bon, par contre, ce qui est peut-être intéressant, et je pense que ça, c'est pareil, c'est un truc assez commun à plein de gens, c'est que. Arrivé à l'âge adulte, quand tu commences à bosser, quand tu commences à dans le dur de tes études, potentiellement tu lâches un petit peu le jeu vidéo, quoi, ou tu changes la manière dont tu consommes le jeu vidéo. Bon, voilà, moi j'ai commencé ma carrière assez jeune et j'avais lancé une boîte de création digitale, on va dire une agence web, on pourrait dire ça comme ça, et j'ai tenu ça pendant quelques années, quasiment 10 ans en fait. Avant de, complètement par hasard, tomber sur un poste assez alléchant chez Arte. C'était en 2015. Ça ressemblait assez fort à ce que je faisais à côté, c'est-à-dire accompagner des créateurs sur la production de sites web. En l'occurrence, ici, à Arte, c'était pour accompagner des sites web ou des expériences compagnons de ce qui pouvait se passer à l'antenne.
Parce que c'était pas forcément du jeu vidéo de
c'était
base,
pas forcément en fait. Du jeu vidéo pur
plus en transmédia au final
exactement
de lié au
c'est ça
d'Arte enfin
ouais,
c'est
ça. Diffusé sur si on veut sortir des gros mots ouais, transmédia crossmédia bimédia ouais, ouais. Qu'est-ce qu'une antenne pouvait proposer sur un autre écran que à l'antenne donc voilà il y avait plein de d'expérience et de projets en cours à l'époque. Je faisais d'autres choses. Hein. Je veux dire, je gérais le site de Trax ou le site de d'Arte Radio. Enfin, voilà, des trucs très variés dans le numérique et dans la chefferie de projet la plus basique. Mais à côté de ça, il y avait des projets qui venaient de sortir, des projets qui étaient en cours de signature, dont un qui est sorti en 2013, donc 2 ans avant que j'arrive, qui s'appelle Type Rider, qui était le tout premier jeu vidéo d'Arte. Qui pourrait, c'est vraiment un platformer dans l'histoire de la typographie. Et c'était un bon cheval de Troie, parce qu'à l'époque, on produisait ce qu'on appelait aussi des web documentaires. Donc, c'était, pour le coup, ça n'avait pas de. C'était pas le penchant de quelque chose qui se passait à l'antenne, mais c'était juste une proposition éditoriale unitaire, unique, stand-alone, on va dire, qui fonctionnait dans des navigateurs web. Donc il y a par exemple Alma, enfin voilà, c'est des projets de délinéarisation de documentaires. Comment on propose à des gens d'expérimenter de la narration, en l'occurrence documentaire, de manière interactive et délinéarisée. Donc on produisait ces expériences-là et on avançait avec des auteurs, des réalisateurs, sur bah voilà, ces formes innovantes, en tout cas de transmission de savoir, de culture, de fiction, etc. Et donc Typewriter est arrivé et ça pouvait se jouer dans le navigateur parce qu'à l'époque Unity avait un web player. Et donc Arte s'est dit assez bêtement, ah bah c'est comme un web documentaire sur l'histoire de la typographie. Il s'avère que ça a la forme d'un jeu vidéo, mais dans le fond ce qu'on a comme matière quoi, c'est de la matière documentaire sur la typographie. Donc moi je le raconte comme ça aujourd'hui, je pense que ça a presque une valeur de cheval de Troie quoi. C'était on fait un jeu vidéo mais en fait pas vraiment et voilà. Et d'ailleurs après le constat, et ça a été assez partagé de la part de tout le monde, c'est que la brique documentaire, c'est pas ce qui marchait le mieux. Mais par contre, c'était un très bon jeu vidéo, c'était un très bon jeu de plateforme. Le jeu avait super bien marché et Arte avait utilisé le schéma... vous me dites quand je parle trop, hein, parce que est-ce qu'il est possible que je sois en roue libre.
C'est très bien.
Arte avait utilisé la méthodologie assez classique de coproduction audiovisuelle. Donc on investit dans un projet, on y apporte voilà, des moyens financiers et puis des moyens humains pour soutenir un programme éditorialement. Donc comment on les aide à sourcer la matière documentaire, comment on les aide à faire en sorte que voilà, l'expérience elle ait un peu de plus-value culturelle. Mais on restait des coproducteurs, on n'était pas des éditeurs. L'éditeur, ça a été Bulky Pix à l'époque. Le jeu, il a été distribué sur mobile, sur PC, sur console. Il a rencontré un très large public et donc Arte, bah, face à ses résultats et à ce succès critique, public, s'est dit « Ah ben, le jeu vidéo est une manière d'étendre notre ligne éditoriale, de rencontrer des autres publics, d'abord d'utiliser d'autres écrans à des fins, voilà, enfin, de nos missions de service public propres. » Et ben, allons-y. Donc ils ont fait un appel à projet à l'époque et ils ont sourcé quelques projets qui étaient portés essentiellement à l'époque par des producteurs transmédia, en fait, des producteurs du numérique et pas forcément des studios de jeux vidéo. Ça, c'est assez caractéristique du début d'Arte, en tout cas. Et moi, j'ai passé mon entretien pour faire des sites web, quoi, en gros, et ils m'ont dit « T'aimes bien les jeux vidéo ?» Franchement, parce que Arte fait du jeu vidéo, donc j'ai réagi à l'époque voilà, assez bêtement en disant « Oui, bien sûr, je gère à fond, je sais très bien. » Donc j'avais une petite culture de jeux vidéo, j'avais un petit passé de joueur. Je ne me considérais pas comme le plus grand joueur, comme la plupart des gens à qui on demandera. Voilà, volontairement, du coup, je me suis retrouvé à gérer plusieurs productions de jeux vidéo en parallèle. Et donc, j'ai dit, je ne sais plus dans quel événement, mais de manière très provocante, et il y a des gens qui ont fait une syncope, je crois, dans la salle, j'ai dit, gérer la production d'un jeu vidéo est un projet de site web comme un autre, quoi. C'est-à-dire que dans le fond, en termes de producing, de gestion de projet... Bon, ça ressemble un peu, quoi. Bon, on a fait plein d'erreurs, on a appris sur le chemin, et puis on a maturé aussi un petit peu ce que c'était que de coproduire du jeu vidéo. Et plus tard, en 2016, on a commencé à devenir éditeur, parce qu'on s'est rendu compte que éditer, c'était être le diffuseur. Enfin, il a fallu tisser des parallèles en fait entre l'univers du jeu vidéo et l'univers de l'audiovisuel. Et voilà, on s'est rendu compte que coproduire sans éditer, c'était à peu près la même chose que si dans le milieu de l'audiovisuel, bon, tu produis une série, puis à la fin tu laisses Netflix la diffuser et pas toi, tu vois. Donc du coup, on a commencé à devenir éditeur. Et comme j'ai beaucoup poussé pour ça, on m'a dit bon bah tu gères en fait. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu par la force des choses, à suivre l'essentiel des projets de coproduction et du coup de développer cette activité d'édition de jeux vidéo en interne à Arte, où on m'a laissé une grande liberté et je les remercierai toujours pour ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus mécanisé, beaucoup plus... anticiper aussi, quoi. Donc on bricole un peu moins, mais donc on a cette activité assez pérenne, quoi, de coproduction et d'édition de jeux vidéo, parce qu'on considère que le jeu vidéo est une forme d'expression, de narration, un véhicule culturel comme tant d'autres, et que dans notre mission de soutien à la création européenne, ben, ça fait partie du même élan et que c'est légitime.
C'est là qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en effet, Arte, qui part d'une chaîne de TV, encore une fois, ça reste sa base, qui dit, OK, le numérique en tant que tel, comme dit le site web, etc., ça donne une autre manière de voir les séries, peut-être en donner plus d'informations, donner l'information différemment, et de facto, c'est aussi, en termes de mœurs, là, pour le coup, un médium encore plus utilisé. Et au final, ils se sont dit la même chose au final avec le jeu vidéo. Et donc c'est intéressant aussi de voir là pour le coup la réflexion d'Arte de manière générale, de dire en fait au final la TV c'est un médium comme un autre, l'internet aussi, et là le jeu vidéo aussi. Et donc c'est en train de se dire oui, comme tu dis, le côté de dire transmettre des informations, diffuser des connaissances, dans tous les cas, quel que soit le médium, c'est ce que vous avez envie de faire, enfin ce que vous, votre mission, comme vous dites. Et c'est intéressant de dire, en effet, peut-être qu'il y aura peut-être un prochain médium dans le futur et que Arte dira, c'est celui qui est utilisé, il va falloir qu'on se mette dessus pour continuer à transmettre à peut-être des nouvelles générations qui utiliseront que ce médium.
Complètement, en fait, il y a une démarche, donc moi je travaille au sein du développement numérique d'Arte France, et le fond de la démarche c'est vraiment de produire des contenus qu'on appelle affinitaires, c'est-à-dire qu'en fait le but c'est pas de diffuser le même contenu sur le plus de plateformes possible, mais d'écrire et de produire le contenu pour un écran en particulier, pour un canal en particulier, et donc in fine pour un public en particulier. Les personnes qui sont sur TikTok, ou qui écoutent des podcasts, ou qui regardent des vidéos sur YouTube, n'ont pas du tout les mêmes attentes face au contenu, à sa longueur, à son ton, à sa grammaire, et voilà. Et donc du coup, je crois que ça c'était la force d'Arte pour le coup, bien avant que je sois là, depuis 20 ans probablement, c'est que la manière dont ils explorent chaque nouvelle opportunité de raconter des histoires, que ce soit, et ça du coup je veux insister là-dessus, c'est que c'est pas forcément... que documentaire ou que pour apprendre des trucs ou que à des vocations culturelles, parce que derrière il y a la fiction aussi. Enfin, Arte a une grande production de fiction, de cinéma, de séries, de magazines, etc. Et donc voilà, en tout cas, utiliser les canaux pour ce qu'ils sont et comprendre les usages et les attentes des personnes qui consomment ces différents contenus. Et du coup, tu vois, après le jeu vidéo, il y a plein d'autres trucs qu'on a défrichés qui sont arrivés bien plus tard. On est sur TikTok et on produit des contenus pour TikTok qui sont complètement différents de ce qu'on fait à la télé, bien sûr, mais qui sont aussi différents de ce qu'on fait en podcast, qui sont différents de ce qu'on fait sur YouTube. Sur Twitch, on fait pas de la télé. Et je pense que ça aussi, c'est une différence avec d'autres médias, c'est d'arriver et de dire, en fait, on comprend bien les différences et ce qu'il y a de conceptuel et d'inhérent à la plateforme. Et donc, du coup, en l'occurrence sur Twitch, c'est l'interactivité, donc le but c'est quand même de parler au chat et de pouvoir s'adapter en temps réel, etc., et de faire du direct, ce qui est très bizarre pour Arte, parce qu'Arte n'est pas du tout réputé pour son direct, là où d'autres groupes sont beaucoup plus habitués au direct. C'est effectivement explorer ses écrans, la mission de service public, elle nous pousse à aller charger le public, et donc du coup, où est-ce qu'il est? Il est derrière plein de différentes plateformes, plein de différents devices, et donc comment on y va, et comment on y va de manière un peu maligne, quoi.
Ça a différentes attentes, donc différentes manières de les atteindre.
Ouais.
Justement, tu parlais tout à l'heure de création européenne et justement de diffusion publique. C'est quoi le processus de sélection et surtout vers lesquels jeux vous n'allez pas forcément, tu vois.
Alors, il y a plusieurs temps. Si je raconte l'histoire d'Arte, on a eu plusieurs lignes éditoriales et plusieurs façons de choisir nos projets par rapport à notre expérience, par rapport à ce avec quoi on était à l'aise et par rapport aux gens qu'on connaissait aussi. Mmh. Aujourd'hui, on agit vraiment beaucoup plus comme un publisher classique. J'avais un dîner juste avant avec des confrères publishers vraiment du milieu du jeu vidéo qui n'ont rien à voir avec une chaîne publique de médias européens et nos méthodes en fait sont assez similaires. Finalement, on reçoit aujourd'hui, on est identifié comme un publisher. D'ailleurs, certaines personnes en Europe ne nous connaissent pas forcément comme une chaîne de télé avant de nous envoyer des projets. Donc on reçoit des projets, on reçoit des protos, des pitch decks, on les teste, on les évalue, et nous ce qui va nous importer c'est effectivement Nous, on fait pas. On pourrait dire qu'on a un catalogue de jeux vidéo indépendants, mais moi, j'ai envie d'aller un cran plus loin. Parce que le jeu vidéo indépendant, je sais pas trop ce que ça veut dire en 2023, mais en tout cas, de jeux d'auteur. Et donc, du coup, ça nous cantonne. Et il y a aussi nos limites budgétaires, mais ça nous cantonne dans un certain scope, dans un certain budget, dans une certaine taille d'équipe. Et on va chercher des projets qu'on ont un peu de sens, qui veulent raconter quelque chose. Ça, c'est peut-être l'aspect un peu auteur. Puisqu'on est le service public, on a aussi un objectif d'accessibilité. Donc, nos projets doivent avoir des gameplays qui sont facilement... compréhensible, on va dire, qui ne requiert pas d'expérience de joueur. Parce que ça, je pense que là, on se planterait si on va sur un 4X, la plupart des 4X, on part du principe que la personne, elle a déjà joué à un 4X avant. C'est pas tant que c'est forcément difficile. Et d'ailleurs, ça veut pas dire que ça nous fait renoncer à la difficulté. Vectronome, par exemple, c'est un bon exemple. Genre, c'est un jeu qui se prend facilement en main, mais qui est difficile. Mais en termes de on peut ne jamais avoir joué à un jeu de rythme ou ne jamais avoir joué à un jeu de plateforme isométrique et pourtant le prendre en main assez facilement. Donc on a cette question d'accessibilité. On a, je pense, un vrai fil rouge sur les directions artistiques assez ambitieuses ou assez radicales. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien comme un marqueur assez fort. Et parce que Arte est Arte et que l'équipe, elle est composée de chargés de programme qui savent accompagner les auteurs dans la narration, ça nous pousse un petit peu vers les jeux qui ont des univers ou des choses à raconter. Ça ne veut pas forcément dire que c'est très verbeux, même si ça peut l'être. En termes, mon amour est très verbeux, ou Inua peut l'être aussi à sa manière. Vectronome ne l'est pas, mais en tout cas, on essaye de développer, d'avoir une plus-value dans l'accompagnement des auteurs sur le développement d'un univers. Voilà. Avec ça, j'ai tout dit, j'ai pas dit grand chose. Aujourd'hui, on a une volonté un peu plus PC console. Ça, c'est aussi une manière de choisir les projets. C'est que on regarde les plateformes, on regarde les budgets, on regarde la manière dont sont constituées les équipes. Là-dessus, on a un œil assez aussi. On essaye d'inciter à la parité, à la mixité dans les équipes. Donc ça, c'est aussi une manière de choisir le projet. Peut-être que ça peut, en tout cas, ça peut jouer dans la balance, quoi.
Et le fait que Arte soit une chaîne franco-allemande.
Alors, le fait que une chaîne franco-allemande, jusque là, pour des raisons un peu pratico-pratiques et administratives, on a quand même beaucoup bossé avec des Français. On a une expérience donc Vectronome avec des Allemands. Il s'avère que c'était les Allemands, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre en Allemagne, en Europe, pardon. Et demain, la vocation, c'est vraiment d'avoir un scope beaucoup plus européen. Je pense que ça va se révéler dans les mois et années qui viennent. On a aujourd'hui, Arte n'est plus une chaîne de télé franco-allemande, mais un réseau culturel européen numérique. Et la télé n'est pas forcément le cœur du projet, en fait. Le cœur du projet, c'est un peu plus Arte.tv, en fait, et tous les autres écrans qui peuvent tourner autour, et en Europe. Et en fait, aujourd'hui, Arte est disponible dans 6 langues, et il y en a d'autres qui arrivent, et on couvre 70% de l'Europe, en fait, enfin, des langues parlées par les Européens. Et je pense que ça va se révéler aussi dans nos productions de jeux vidéo.
C'était déjà le cas peut-être avant, du coup, il y avait une volonté d'aller plus se diffuser dans l'Europe en entier, avant même peut-être le jeu vidéo.
Ouais, complètement. Ouais, oui, c'est pas le jeu vidéo.
Il y avait déjà une volonté. Ouais,
c'est pas le jeu vidéo qui porte ça, mais par contre, du coup, on peut. Enfin, j'aimerais bien que le jeu vidéo puisse suivre cette même piste-là et que demain, on soit capable d'avoir dans le catalogue des Italiens, des Belges, des Allemands, des Suédois, enfin j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, pouvoir étendre les horizons. Ouais.
très bien. Du coup, peut-être sur le côté, moi je sais que de ce que j'en vois des jeux, souvent j'ai l'impression qu'ils ont quand même, enfin tu parlais tout de suite de l'identité un peu, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un côté très reposant, peut-être à part Vectronome qui a ce côté un peu plus énervé, ouais. Mais est-ce que c'est une volonté ou est-ce que... peut-être qu'à l'avenir il pourrait y avoir des trucs qui sont complètement différents et qui pourraient, je sais pas moi, je vais citer des références des plateformeurs comme Mario par exemple ou du jeu de course, enfin des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait arriver ou c'est vraiment pas le...
Je pense que, enfin, vraiment, je crois en termes de genre, je crois que tout est permis. Tant qu'il y a du fond et que nous on peut apporter quelque chose, quoi. Tu vois, un jeu de course, qu'est-ce que Arte pourrait apporter en termes de vraiment de plus-value édito, tu vois, un jeu de course, je sais pas. Après, tu vois, je sais pas, si je prends un jeu de voiture, voilà, il y a un titre comme Wheels of Aurelia, qui est un très petit jeu italien, si je me trompe pas, indé, où bah, on pilote une voiture le long des côtes italiennes. Le fond du truc, c'est pas tant la voiture que ce qui se dit pendant les voyages, tu vois. Mmh. Et peut-être que là-dessus, tu vois, je pense que c'est un jeu qu'on aurait pu typiquement faire. Ouais. La plupart des gameplays sont pas des fins en soi. À part peut-être un jeu de foot, où là, bon, je pense qu'on ne lui demande pas grand-chose d'autre que d'être un jeu de foot, mais sinon, les gameplays peuvent être le véhicule de plein de messages ou plein de, je sais pas, d'intentions d'artistes, en tout cas. Donc, si le message, il a une intention, voilà. Est-ce que ça nous cantonne à des jeux plus calmes que d'autres ? Je sais pas, ça c'est peut-être plus notre contrainte d'accessibilité qui fait qu'on va pas vers des jeux très nerveux. Demain ça serait possible.
J'ai envie de dire aussi, il y a un public peut-être qui cherche du jeu nerveux aussi. C'est du coup,
ouais, ouais.
C'est ne plus être accessible que de se couper aussi ce truc-là.
Oui, oui, complètement. Et voilà, il y a aussi un truc... C'est marrant parce que nous-mêmes, on se bat contre l'image de... Comment on renvoie... Il y a l'attente autour des jeux Arte, tu vois. Heureusement, on ne l'a pas complètement écouté parce que sinon, on ferait du jeu ludo-éducatif. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Parce que ça, c'est un préjugé. C'est vraiment une pure... un a priori sur ce que Arte devrait faire. Mmh. Donc, on a volontairement, très volontairement, pas choisi ça et peut-être que demain, tu vois, on rencontrera un truc ludo-éducatif qui nous plaît vraiment parce qu'il le fait bien, tu vois. Mmh. En tout cas, il y a une drôle de ligne, en fait, entre ce qu'on attend de nous et que, du coup, on évite, et ce qu'on attend de nous et qu'on embrasse. Et du coup, peut-être que, oui, une certaine... Je pense que ça, c'est les programmes Arte, en fait, en général. Hein. On essaye de pas hacker le cerveau et de pas être dans une sorte de frénésie qui est l'air du temps et nous, de projet... de proposer plutôt des choses qui sont un peu plus relax, qui permettent aux gens de réfléchir, de vivre les choses à leur rythme. Voilà. Enfin, tu vois,
ce qui est intéressant, c'est aussi le côté attente peut-être du public qui connaît Arte. Et au final, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est en fait, c'est, tu t'arrêtes pas à les gens qui connaissent peut-être Arte, qui en effet attendent peut-être certaines choses parce qu'ils ont une certaine image d'Arte. Et on veut dire l'image de la population de manière générale, enfin les attentes, pardon, de la population de manière générale qui... pour certains ne connaissent pas Arte ou considèrent que c'est pas dans leur cam, on va dire, dans les choses qu'ils voudraient regarder ou voir, mais qu'au final avec les programmes que vous faites côté jeux vidéo haute leur correspondent aussi parce que vous ne faites pas cette limite, en effet, à ce carcan qu'on l'image qui vous colle un peu pour une certaine partie de la population qui disent Arte c'est ça, alors qu'au final c'est plus vrai, ou en tout cas, vous êtes en train de le déconstruire d'année en année, de plus en plus.
C'est ça. Et là, du coup, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, Type Rider est sorti en 2013-2023. Mmh. C'est les 10 ans d'implication d'Arte dans le jeu vidéo indépendant. Donc, je pense qu'on a... ça y est, on arrive à un moment où, en fait, il y a des gens qui nous envoient des jeux aussi comme... vous êtes un publisher, vous n'êtes pas forcément une chaîne de télé. Enfin, ils ont dépassé un peu le truc. Et donc, on reçoit des propositions qui nous étonnent et qui, parfois, vraiment viennent nous challenger sur ce que ça devrait être notre ligne éditoriale. Donc, on passe notre temps un petit peu à se demander, tiens, ça, est-ce que ça rentrerait dans le catalogue ou la vision qu'on a du catalogue Enfin voilà, en fait, c'est les propositions, c'est clairement ce qu'on reçoit qui façonne aussi notre propre faculté de à comprendre. Parce qu'au tout début, clairement, il y avait 80% des projets, c'était des trucs vous êtes Arte, moi j'ai photographié toute la grotte de Lascaux, je pourrais peut-être en faire un jeu, ça devrait vous plaire, vous Arte, puisque hein. Et donc on disait non, en fait, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Mais on devait. Je vais être un peu violent, mais on devait se fader quand même ces projets-là, quoi, qui étaient juste le préjugé de ce qu'on devait faire. Et aujourd'hui, ça y est, en fait, on a dépassé vraiment ce truc-là, et donc ça nous tire plutôt vers le haut, en fait. C'est ce qu'on reçoit qui nous questionne à comment on définit notre ligne édito.
Ouais, Du coup, y a la question qui peut suivre, c'est aussi pourquoi ne pas avoir un studio en interne ?
Ah, en fait, de la même manière que... c'est un peu étonnant, mais Arte ne produit quasiment rien en interne, en fait.
Tous les documentaires, c'est du...
Ouais, bien sûr, c'est des producteurs, c'est des auteurs qui portent les projets, qui nous les montrent. Et ça, je pense que ça permet aussi un peu plus de liberté de ton, de point de vue variés. Parce que, en fait, on reçoit des projets qui sont portés par des gens à l'extérieur et qui nous... Qui flaire l'air du temps mieux que nous on peut le faire, en fait. C'est vrai sur la fiction, c'est vrai sur le documentaire, c'est vrai sur le jeu vidéo, je suis presque certain, en fait. Ça, c'est un débat de fond qui est un peu intéressant, c'est est-ce que jamais un éditeur a compris le marché avant les développeurs ? Et je pense pas, en fait. La plupart des succès sont des surprises pour les développeurs, bien, mais ne le sont pas forcément pour les développeurs. Et non, voilà, je pense que en fait, c'est les studios qui ont la main créativement, et c'est eux qui ont les idées, c'est eux qui ont le savoir-faire. Et je pense qu'il faut savoir garder son rôle. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je peux vous raconter, parce que vous connaissez Arte comme une chaîne de télé, donc je peux vous raconter comment on est d'une part coproducteur et d'autre part publisher. Mais pour l'industrie en général, j'agis exactement comme un publisher. Et dans le fond, je suis un publisher. Voilà. Non, on n'en est pas là. On n'est pas Ubisoft qui a ses studios de dev et qui commande ses propres jeux. C'est pas l'idée. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi. Enfin, j'aime bien qualifier ce qu'on fait de jeu d'auteur, parce que pour moi, les idées elles viennent des auteurs, elles viennent des créatifs, et c'est nous qui devons plutôt les suivre que l'inverse, quoi.
T'as des questions sur la partie Arte ? Sinon, on peut passer à la suite et parler de...
Puis on y reviendra. Je peux parler d'Arte pendant 2 heures, si vous voulez.
Oui, du coup, je voulais passer sur la partie musicale. Oh. Parce que du coup, tu fais pas mal de musique. Enfin, moi, j'ai vu passer des lives aussi où tu composais en live.
Ouais.
Et surtout, tu as fait l'OST de The Wreck, ouais. si je ne me trompe pas, de The Pixel Hunt. Qui est sorti assez récemment.
Ouais.
Donc, c'est quoi l'histoire derrière tout ça ?
Il y a quand même un lien avec Arte, du coup, la transition, elle est un peu trouvée. C'est que donc, Florent Morin de The Pixel Hunt, auteur de The Wreck, avant, a bossé sur un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, également connu en anglais sous le titre Bury Me My Love. Et c'est Arte qui était coproducteur. On n'a pas été éditeur. C'est le premier jeu qu'on aurait pu éditer par ailleurs. D'une part, on n'était pas prêt dans le timing. Et aussi, on s'est dit, si on devient éditeur et que notre premier jeu, c'est une histoire sur une migrante syrienne, derrière, on en a pour 10 ans à recevoir des jeux sur les migrants. et donc, on a attendu et on a édité le jeu suivant. Quelques mois plus tard, on a édité Vandals, puis Homo Machina. Bref, la parenthèse Arte est close. Mais donc, du coup, on venait juste de travailler ensemble sur Enterre-moi mon amour. Moi en tant que coproducteur et lui en tant que studio. Et il savait que je faisais de la musique. À l'époque, j'avais un duo qui s'appelle Apolline Dash. On faisait de la musique. On venait de sortir, donc c'était fin 2018. On avait sorti un morceau qui s'appelle Ocre, qui s'appuyait essentiellement sur des samples d'un film de Bollywood, inspiration très orientale, assez cocasse, quoi, voilà. Et nous, on en avait fait un truc électro, parce qu'on a donc une formation, Apolline Dash, c'est avec un ami qui s'appelle Fabien Dalzin, et on venait de faire ce morceau, et comme on faisait pas mal de live à l'époque, on s'était amusé à ralentir le morceau et à en faire une version un peu... Enfin, à l'époque, il y avait un truc qui tournait pas mal, qui s'appelait le Chop and Screwed, tu vois, où tu prends des morceaux, tu les ralentis, tu les défonces un petit peu. Et donc, nous, on avait fait ça sur notre propre morceau pour le jouer en live. On avait ralenti ce morceau à fond et tout, et ça lui donnait une atmosphère assez particulière. Bref, Florent Morin, à ce moment-là, bosse sur son jeu. On venait de bosser ensemble. Il m'a dit, tiens, dis donc, je suis tombé sur ta musique. Est-ce que je peux emprunter ce morceau, cette édite un peu chelou de Ocre, est-ce que je peux l'emprunter et le mettre dans mon prototype? C'est juste à des fins internes, mais il est quand même possible que je l'envoie à des éditeurs, dont Arte d'ailleurs. Mais genre, est-ce que ça te gêne pas? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Est-ce que j'ai le droit de le mettre là-dedans? Donc moi, je lui ai dit oui, vas-y, go. le temps de développement étant ce qu'il est, j'ai entendu parler du projet des mois plus tard, voire des années plus tard, en gros en 2020, où Florent passait en prod, ça y est, le jeu était lancé. Et donc, le morceau qu'il avait utilisé pour la scène très importante du crash, bah, il m'a dit, en fait, je crois que je veux le garder. Enfin, c'est souvent ça, hein, la musique temporaire reste pas souvent temporaire. Donc, il m'a demandé, bah, est-ce que, d'une part, tu peux mettre ce morceau au propre, parce que moi, je lui ai envoyé un MP3 dégueulasse et que, clairement, genre, il n'y avait jamais eu de master, enfin, une mise au propre définitive de cette version screwed, ralentie à fond et qui, voilà... Ça lui donnait vachement de texture, c'était assez intéressant, mais bon, c'était clairement pas utilisable. Donc il m'a demandé de le mettre au propre. Et puis tant que j'y étais, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de bosser sur la BO ? On a identifié 4 autres moments qui pourraient mériter du son. Et donc du coup, j'ai dit banco. Et donc j'ai bossé sur, bah, du coup, en tout 5 tracks pour ce jeu vidéo. Ce qui était rigolo, puisque... Il y a d'une part ma vie professionnelle autour de la production de jeux vidéo et mon hobby qui se rencontrait comme ça, genre dans un truc un peu, voilà, un peu rigolo avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, Florent, c'est assez cool de bosser avec lui. Et voilà.
Donc c'est ponctuel ou c'est potentiellement à refaire ?
Non, c'est, enfin, en fait, j'ai adoré l'expérience. C'est venu... C'est parce que donc, j'avais jamais fait de musique de jeux vidéo et... C'est une évidence, mais la musique de jeux vidéo, bah, elle est dictée par la vitesse à laquelle le joueur joue. Donc si la personne a décidé qu'elle resterait sur une phase et que mon morceau s'y jouait sans s'en soucier, ça serait pas de la musique de jeux vidéo. Et donc c'est venu un peu me challenger à des endroits que je connaissais pas trop, de théorie musicale et tout ça, où en fait clairement genre, je m'étais jamais posé ces questions de... Qu'est-ce qui se passe quand, en tant que compositeur, tu perds la main sur ton morceau ? Enfin, soudain, voilà, en fait, c'est le joueur qui va gérer l'arrangement en fait, du morceau et la vitesse à laquelle il se déroule. Donc, c'était chouette. J'ai appris plein de trucs. Et ouais, ça m'a un peu donné envie d'en refaire, ouais. Clairement. J'ai trouvé ça chouette. Là, j'étais dans un mode un peu confort parce que Florent m'avait donné un peu le brief de... à toi, tes musiques, c'est un peu... comment on dit, c'est un peu c'est cinéma, cinématographique, quoi. C'est vraiment les cue the music, donc clairement la musique elle est là pour être jouée un peu pop, quoi, en front, et on est là pour l'entendre et pour la remarquer, et elle vient souligner des émotions et tout ça, donc j'avais pas ce rôle un peu ingrat de faire de la musique qu'on entend mais pas vraiment, enfin c'est pas ingrat, c'est assez noble, mais très difficile, quoi, de faire de la pure BO. Moi, j'étais là vraiment pour faire de la musique originale, on va dire, des inserts musicaux qui viennent. Donc, quelque part, on me demandait d'être moi-même, c'était assez simple. Mais ouais, ça m'a donné un peu envie d'en faire plus.
Ah, et plus, mais différemment. Parce
que bah, peut-être, du coup, peut-être, ouais, peut-être plus différemment. Ouais.
On peut aller jusqu'à, moi, je pense, l'exemple, c'est Disaster Peace. Voilà. Quant à là pour le coup, c'est le jeu qui va dicter la musique. C'est voilà, c'est le morceau va se construire en fonction des actions du jeu. Alors là, on est réellement l'opposé complète. Mais voilà, c'est là que c'est intéressant avec le jeu vidéo. Il y a différentes manières de.
Ouais,
de
puis il y a différentes places, quoi.
C'est ça.
Soit c'est de la musique qui est vraiment très en avant, soit de la musique qui est très en arrière. Il y a clairement des choses qui dépassent mes compétences techniques, hein, parce que j'ai pas intégré la musique, j'ai pas fait le sound design. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas fait, mais en tant que compositeur, voilà, participer à ça, c'était chouette, ouais.
Peut-être co-composer pour le coup dans le futur avec quelqu'un sur ça, pour en effet. Peut-être, comme tu dis, peut-être les pans techniques qui te manquent peut-être de carrière de musicien, de construire avec quelqu'un, ça peut être.
Ouais, aussi, carrément, carrément. Puis, enfin voilà, là du coup j'ai apporté un univers. Enfin moi, je viens quand même plutôt des musiques de l'espace, des musiques assez électroniques. Je peux tendre vers l'ambiance, faire des trucs comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai fait parce que voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est très Sundance, tu vois, c'est vraiment, voilà, assez pop en fait, des trucs assez construits qui viennent vraiment s'insérer, se mettre très en avant dans le truc. Mais ouais, je sais pas en fait, je me suis dit que au pire, si personne ne me demande de faire la musique de son jeu, peut-être que moi je me ferais la musique d'un jeu imaginaire, quoi.
C'est, oui, c'est, ça se fait. Hein.
ça peut se faire.
Des BO de jeux qui ne sont pas de BO. Enfin, voilà, où il n'y a pas
ça,
de jeu.
Ça, c'est un jeu imaginaire ouais, qui n'existe que dans ma tête. Ouais.
Du coup, tu n'as jamais fait de game jam ?
Eh ben non. Mais ça, c'est un de mes objectifs. Mais ça, c'est drôle aussi, c'est que j'organise des game jams par ailleurs.
Ah bah, vas-y, vas-y.
Et donc, je n'ai jamais participé à une game jam. Mais du coup, le next step, ouais, un peu facile, ça serait peut-être de me dire participer à une game jam en tant que musicien, compositeur, sound designer, un truc un peu comme ça, pour voir quoi.
Et la game, enfin les game jams que tu organises, c'est dans le cadre d'Arte ?
Ouais, ouais, ouais. C'est... Il y a eu deux game jams d'Arte. Une en mars 2020, excellent timing, mais qui a eu lieu bah, vraiment du coup sur la ligne de départ du confinement. Donc c'était assez rigolo, c'était juste avant. Et c'était super chouette. Et une là en janvier dernier, qui a donc eu lieu à la marbrerie de Saint-Ouen. On avait réuni 45 participants dans 7 équipes différentes, avec l'ambiance Arte et la transmission en direct et tout le week-end en partenariat avec Jour de Play, qui est l'émission Twitch sur le jeu vidéo d'Arte. Et voilà, c'était assez chouette de faire rencontrer ben, le programme qui parle de jeux vidéo et des gens qui font des jeux vidéo pour documenter un peu en temps réel et en version micro. À quoi ça, c'est quoi les enjeux de la création vidéoludique quoi.
Comment t'es intervenu dans l'organisation de la Game Jam enfin, c'est quoi tes rôles et qu'est-ce que t'as fait pendant
Eh ben, pendant, pas grand-chose, à part gérer des problèmes. Mais non, bah, c'est tu sais, de l'orga événementiel, quoi, hein, voilà, planifier, recruter. Communiquer, théoriser, trouver les partenaires pour de l'affiche à la bouffe en passant par le safe space et voilà, comment on cadre aussi tout ça. Et non, c'est deux super expériences, c'est deux game jams qui sont similaires dans la philosophie mais très différentes dans la forme et dans la manière dont on communique autour d'ailleurs. Peut-être qu'il y en aura une troisième, encore une nouvelle forme, j'imagine. En tout cas, ça nous plaît bien. À Arte aussi, de pouvoir utiliser la Game Jam comme une façon de parler, bon, d'une part de notre activité de soutien aux jeux vidéo, mais aussi de créer un espace et un moment pour des auteurs de s'exprimer librement et d'inventer des formes voilà, de médias interactifs. Je trouve ça assez chouette.
Ah, c'est intéressant parce que du coup, la Game Jam, nous on le dit souvent, c'est un peu la première étape avant justement la création d'un jeu un peu plus qui peut, enfin, ça peut juste être jeté à la poubelle, ou en tout cas dans des archives.
Je pense qu'il le faut même. Mais... non, mais parce que en fait, c'est surtout, je trouve, une affaire de personnes, enfin, de gens, de rencontres. Ça, j'ai vraiment l'impression de paraphraser Edouard Baird là, mais non, mais ce qui est chouette en fait, c'est juste de se dire, bah tiens, on va créer le chaos et avec les bons thèmes, avec les bonnes personnes, on est une game jam paritaire. Enfin, on tient du coup à ça, avec des horizons très différents, des gens qui ont des différences de niveau. Enfin, on espère beaucoup d'échanges, d'apprentissage, de mentorat. C'est aussi ça. Et pour nous aussi, c'est forcément l'occasion de rencontrer les gens qui feront le jeu vidéo de demain, de les connaître de visu et de se dire, bah voilà, on se connaît. Vous connaissez, peut-être que plus tard vous aurez des projets de jeu pas faits pendant la Game Jam, c'est pas le but, mais voilà, si plus tard vous avez un projet pour nous, n'hésitez pas à toquer à notre porte, si vous faites des jeux vidéo chouettes, dites-le nous et peut-être qu'on vous réorientera vers des personnes qui peuvent vous aider. Enfin, voilà.
T'as eu des échos de je sais pas, d'évolution suite à la Game Jam, de retour
Ouais, bah des gens qui trouvent des stages dans des boîtes de leurs mentors, des gens qu'on rencontre et qui plus tard nous proposent un jeu vidéo. Ça, oui, il y a quelques exemples, ouais. Okay. Quelques cas. Cool. En fait, là, clairement, on a plus de recul sur l'édition 2020. Mais sur l'édition 2020, bah, on a entre-temps signé un contrat en production avec l'une des personnes qui était sur place. On a reçu quelques projets d'autres personnes qui étaient là, et c'est les projets qu'on a étudiés, qu'on suit encore. Enfin voilà, donc il y a des cas très concrets derrière. Même si c'est, encore une fois, faut pas le voir comme l'objectif, parce que ça serait un peu cynique, mais, euh, Mais non, ça a cet effet-là, en fait. Mm-hmm. C'est chouette.
Bah, nous, bah, on, chez Indie Collective, on fait beaucoup de game jam. Et en fait, la plupart du temps, il ne se passe pas forcément grand-chose derrière. Mais ça arrive que, comme cette année d'ailleurs, il y a un jeu qui soit présenté au Stun et qui du coup, est issu de nos game jams d'octobre dernier. Okay. Mais les participants, en fait, ont décidé de continuer le projet. Et du coup, c'est assez cool. Ouais. Donc, pourquoi pas des jeux Arte un jour qui ont été faits au Game Jam Arte.
Mais ça, c'est un vrai... Enfin, on part dans la méta des Game Jam, mais c'est un vrai sujet, je pense, de aussi comment tu fais vivre les expériences créées. Mon ambition en 2020, quand j'avais créé la Game Jam, c'était de dire, après, j'emmènerai tous les protos, quoi qu'il arrive. Je les emmènerai à la Paris Games Week, je les emmènerai à Indiecade, je les emmènerai sur des endroits comme ça où en fait les gens pourront les tester pour ce qu'ils sont, pour des prototypes de game jam. Et ça doit pas être ça doit pas être un objectif, mais ça doit être quelque part pour nous une obligation de moyens en tout cas. Et il s'avère que entre temps il y a une petite pandémie qui a annulé tous les événements, donc du coup j'ai pas pu faire ça. Et demain, enfin voilà, j'imaginerais bien que je peux mettre les jeux dans une sorte de borne d'arcade, par exemple, et le faire tourner au Stunfest ou le faire tourner ailleurs. Enfin, pour moi, ça aurait du sens et ça donnerait un peu aussi un peu de matérialité à ce que tu fais pendant les game jams, quoi.
Et en fait, je pense que c'est très intéressant, que ce soit pour des gens qui découvrent le milieu du jeu ou pas. Mais en effet, nous, on le voit nous avec la Stun Jam qui est fait donc la semaine avant le Stunfest et donc les jeux qui sont pendant le Stunfest. En fait, ça fait que les gens ont des retours pour le coup direct du public de leur création.
C'est du playtest. Ouais.
C'est réellement du playtest comme n'importe quel studio en fait. Et ça donne une autre dimension finale à ta création, à ce que tu veux en faire et surtout qu'est-ce que tu peux faire comme tu dis après. C'est pas forcément ce jeu qui sera in fine derrière proposé à RT par exemple.
Bien sûr.
Mais résultat, ça leur donne la vision aussi de qu'est-ce que c'est aussi de faire un jeu vidéo. C'est le playtest et une partie prenante, on va dire, la création. Et c'est vrai que c'est échanger avec un public, de toute façon, c'est vital, quel que soit le médium. Et en effet, c'est là que c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir que des gens montrent leur création de jeux vidéo fait en jam ou d'autres moyens, dans un festival. C'est hyper, c'est hyper enrichissant pour le coup.
Ouais, clairement.
C'est la transition toute trouvée, enfin, pas du tout en fait, mais c'est. C'est comme dire, dans les autres formes de jeux qui existent, du coup, il y en a une très particulière qui s'appelle Chasseur de sapins.
Ah oui, c'est vrai.
Et moi, j'avais envie d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert. Et je trouve que c'est une forme de jeu un peu IRL.
J'ai eu des retours de game designer sur ce jeu. Oui. Et c'est assez drôle.
Du coup, j'aimerais bien savoir, en fait, c'était comment que ça s'est lancé. Et puis, si peut-être j'ai mal vu, mais quand est-ce que c'est les résultats 2022
Qu'est-ce que c'est déjà
les résultats 2022, je crois que je les ai publiés. Hein.
Ah oui
ouais. Alors, Chasseur de sapins, c'est... je sais pas, c'est venu d'une réflexion que je me suis fait un jour dans la rue. On était peut-être au mois d'avril ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé un sapin de Noël sur le trottoir qui était... tu sais, un peu comme ça, desséché, bien sûr, mais abandonné sur le trottoir, pas dans une poubelle, mais tu vois, genre entre deux poubelles. Et moi, ce qui me fait rire quand je vois les sapins comme ça, c'est que j'imagine les gens quand ils le sortent, tu sais, vraiment un peu comme un cadavre honteux, tu sais, tu t'y prends la nuit, tu te caches un peu en le sortant, ou en tout cas, après, tu traces super vite, et puis voilà quoi. Et donc, j'ai invité l'année d'après les gens à partager leur découverte de sapins abandonnés sur le trottoir qui sont déposés sauvagement, ni dans une poubelle ni dans un lieu de dépôt idoine. Et donc et à ça j'ai associé un barème et donc un méga tableau Excel que je réutilise d'année en année où chaque jour un sapin vaut un point de plus. Donc, plus on le découvre tard dans l'année, plus le sapin pèse lourd dans le classement. Et donc, je comptabilise. Donc, je reçois les sapins sur Twitter et je les consigne dans un tableau Excel. Donc, ma vie, c'est de la merde. et j'ai un baromètre, en tout cas, que je ne rends pas public en temps réel. Mais moi, je vois la course au point des sapins. Et la bataille fait rage. J'ai encore reçu cette semaine 3 ou 4 sapins. On On est le 18 mai, on a un truc un peu comme ça. Donc c'est, voilà, c'est super drôle, ça met les gens un peu en challenge. Je sais pas, il y a une année où ça a un peu buzzé, et du coup il y avait des articles dans des médias et tout. Les gens y voyaient des revendications un peu politiques. C'était soit un message écolo, soit quelque chose qui dénonçait l'incivilité. Moi, honnêtement, c'est juste, ça me fait rire de voir des sapins qui sont déposés à l'arrache dans la rue et de tout ce cérémonial de la honte. Mais on peut réfléchir ensemble sur la manière dont on vit ensemble, c'est vrai. Ce qui est drôle, enfin, faudrait. Tu vois, il faudrait que j'ai un partenariat open data avec, je ne sais pas, quelque chose qui me permettrait de trianguler les sapins. Ouais. Mais de ce que je vois, de ce que je pressens, ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans les quartiers les plus riches qu'on dépose des sapins
sauvagement,
sauvagement ouais. et bien salement. Bon, je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais en tout cas, ouais, voilà, c'est assez drôle. Et donc, j'ai tous les ans, j'organise ce concours. Ma vie est un jeu.
Ouais, mais c'est parfait. Moi, j'ai adhéré tout de suite au concept quand je l'ai découvert. Et puis, il y a 2-3 semaines, j'ai vu un sapin. J'ai voulu le prendre en photo, mais j'ai pas pu. Et donc, je me suis dit, mince, ça m'aurait fait tellement de points.
Oui, parce que du coup, j'ai deux prix, j'ai deux trophées. Il y a la personne qui a cumulé le plus de points de sapin. Donc, stratégiquement, on peut réfléchir à prendre plein de sapins au mois de décembre, au mois de janvier. Bon, ils valent que quelques points, mais il y en a plein. Mais donc du coup, j'ai un deuxième trophée pour les personnes qu'on trouve le plus tard possible. Et donc, il y a le sapin le plus tardif de l'année qui a sa palme à lui, quoi, tu vois. Mais ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que gagner un point par jour, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il aurait fallu que j'ai un truc un peu logarithmique? Un truc qui vienne un peu donner beaucoup plus d'importance au sapin du mois d'avril versus les mois de juin. Et en fait, je crois qu'une... Un truc linéaire, c'est le plus fair, en fait.
Ouais.
Et voilà, ça laisse la course tout à fait pleine de suspense. C'est cool.
Bon, bah, c'est parfait. Je sais pas si tu avais d'autres questions. Bah, du coup, je pense que je vais pouvoir te demander c'est quoi la suite, là, dans les prochains mois, les prochaines années.
Là, on vient de sortir un jeu sur mobile qui s'appelle Family Bash. Très drôle. Qui raconte un dîner de famille, une famille typiquement française en Normandie, qui part en cacahuète. C'est très drôle, c'est un jeu que vous pouvez télécharger gratuitement et qui est voilà, disponible sur iOS et Android. Donc ça c'est un peu l'actu d'Arte. Mais dans 15 jours, on sort un jeu PC-console, 12 with the Ugly, qui est l'adaptation d'un roman de Boris Vian. Jeu d'aventure dans le Los Angeles des années 50 où Rock Bailey essaye de mener l'enquête sur qui a voulu le kidnapper et profiter de lui à des fins eugéniques. C'est un roman de Boris Vian, donc c'est la première adaptation d'un roman de Boris Vian en jeu vidéo qui mélange point and click assez traditionnel, infiltration, enquête, déduction et baston tour par tour dans des bars sur fond de musique jazz et c'est vraiment très chouette. Ça sort dans quelques jours donc sur toutes les plateformes. C'est la plus grosse sortie qu'on ait jamais coordonnée parce qu'il y a je crois 7 ou 8 plateformes différentes et on donnera donc au Stunfest une représentation unique d'un let's play concert où Dollywood parcourra le début du jeu vidéo alors qu'un groupe de jazz improvisera et jouera la BO en direct, en temps réel, en parallèle de la partie. Donc ça, c'est une expérience qui nous plaît bien et on est très contents. Et puis, sur la seconde partie de l'année, mais ça commence quasiment dès maintenant, donc Arte célèbre ses 10 ans de jeux vidéo. Avec une sélection de titres qui seront présentés au Stunfest. Et puis probablement tout un tas d'annonces qui vont venir un petit peu sur le reste de l'année. On a plein de chouettes jeux à révéler au public qui ont donc chacun leur petit twist et leur DA absolument incroyable et leur gameplay vraiment trop cool. Donc vraiment hâte d'annoncer ça. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, il y a plein de trucs qui arrivent un peu dans le cadre de ça. Et puis quoi ? Et puis toujours plein de jeux vidéo. On est sur un petit rythme de croisière là de 3 ou 4 jeux quand même par an. Donc ça prend corps. Toujours plus d'opportunités de rencontrer Arte, j'espère, dans des salons, dans des festivals. Arte prend ses quartiers également à la Gaîté Lyrique, puisqu'on a remporté avec un consortium d'acteurs la programmation, enfin voilà, le 5 ans de programmation à la Gaîté Lyrique à Paris, qui nous permettront éventuellement d'y proposer tout un tas d'événements, d'expériences. Et je pense que ça, c'est aussi pour Arte l'occasion de venir en rencontre avec le public et d'être peut-être un petit peu moins théorique et un peu moins détaché. Donc ça c'est assez chouette. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et puis de la musique, et puis peut-être d'autres jeux avec des sapins, on verra.
Toujours plus.
Toujours plus.
Bon, je pense qu'on peut te retrouver sur Twitter.
Sur Twitter, Adrien Larouzé, LARUZ2E.
Voilà, et puis nous, je pense qu'on peut s'arrêter là. Une question de la régie.
Non, pas de question. Juste...
Une remarque.
C'est qu'on va pouvoir voir plein de beaux jeux pendant le Stun.
Oui, le Stunfest. Alors, voilà. Bon, le podcast sera malheureusement pas diffusé avant le Stunfest, parce que c'est à la fin de la semaine, donc c'est mort. je pense qu'il y aura pas mal de trucs en replay à voir. Je sais pas si le concert sera retransmis sur Twitch.
Je crois que si.
Si,
d'accord.
On nous dit que si.
Dans le public.
Donc vous pourrez voir ce magnifique concert impro jazz To Hell with the Ugly avec en rediffusion, mais vous pourrez pas le voir en live. J'espère que vous avez l'info avant. Donc oui, le Stunfest c'est cool, allez voir les rediffs, tout ça, il y a plein de contenu. Sur notre chaîne, vous retrouverez d'autres podcasts de d'autres invités qui racontent leurs expériences et leur relation aux jeux vidéo indépendants. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, à Spotify, enfin partout. Mmh. Et suivez-nous sur Indie Collective.
Et les liens, on mettra les liens des jeux.
On mettra les liens des jeux, les références, comme d'habitude. Vous inquiétez pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on s'arrête là?
Non, écoutez, je merci. Merci pour cette.
Merci à toi, merci à toi. Merci à toi surtout d'être venu. Mmh. Et puis au prochain.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Salut.